France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Que faut-il entendre par sentiment de submersion? Les mots hier soir du Premier ministre François Bayrou s'agissant d'immigration, vite fait de susciter la polémique, on y compris, on le verra dans son propre camp. Avec notre invité aujourd'hui, on parlera rénovation du musée du Louvre. Le président Emmanuel Macron est attendu sur place cet après-midi pour y annoncer un vaste chantier. On se rendra par ailleurs en Italie où le nombre d'exilés sur les côtes de la péninsule depuis le 1er janvier a plus que doublé en un an. Enfin, on tâchera de savoir qui se cache derrière le chinois DeepSeek, lequel a semé la panique à Wall Street après le lancement de son modèle d'intelligence artificielle à bas coût. La France est-elle aujourd'hui submergée par des vagues d'étrangers? Les sous-entendus hier de François Bayrou interrogé à la télévision sur le thème de l'immigration n'ont pas fini de faire réagir ce matin encore quand l'extrême droite se frotte les mains. La gauche se dit choquée, mais pas seulement, puisque la présidente de l'Assemblée nationale elle-même, Yael Braun-Pivet, s'est dite gênée ce matin. Alors quels ont été tout d'abord très exactement les mots du Premier ministre? Je vous propose de l'écouter hier soir sur le plateau de LCI.
Je pense que les apports étrangers sont positifs pour un peuple à condition qu'ils ne dépassent pas une proportion. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet.
On y est en France, selon vous?
On approche. En tout cas, c'est dans cette zone qu'on se trouve.
Voilà, alors en parlant de sentiment de submersion, François Bayrou, bien entendu, prend soin de ne pas expliciter son propre point de vue, mais entend ici rapporter au fond une sorte de perception générale de l'opinion. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Thomas.
Il paraît difficile, en écoutant le Premier ministre, de ne pas se remémorer le dérapage en son temps d'un certain Jacques Chirac, qui n'avait pas hésité, lui, à évoquer une overdose d'odeurs et de bruits. Et on se dit qu'en citant hier les modes de vie et la culture, eh bien, François Bayrou, à son tour, a pris là un virage extrêmement dangereux qui fait d'ailleurs réagir Rosalie jusque dans son propre camp.
Évidemment qu'il faut réguler l'immigration, insiste Yael Braun-Pivet. Mais la présidente macroniste de l'Assemblée, ce matin sur BFM, rejette l'expression choisie par François Bayrou.
Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent. Je n'utilise pas ces mots et je ne les utiliserai jamais parce que je crois que c'est contraire à ce que nous sommes profondément.
C'est ce que pensent les Français, pas ce que pense François Bayrou, tant un conseiller à Matignon qui a surcherché sans succès depuis hier soir un synonyme à submersion. Là où d'autres, aujourd'hui dans le même camp, y voient la validation de leur ligne. Le ministre de l'Intérieur, le LR Bruno Retailleau, sur France 2.
Il a justifié la politique que je souhaite mener.
Et son prédécesseur aujourd'hui, garde des Sceaux, Gérald Darmanin, sur CNews.
Vous avez un Premier ministre courageux qui, pour la première fois, évoque ces sujets. Vous ne vous y attendiez sans doute pas que François Bayrou, un homme centriste, modéré, équilibré, puisse dire, au bout d'un mois et demi de domination à Matignon, qu'il y a effectivement une proportion d'étrangers qui ne doit pas être dépassée sur le sol national. On pourrait peut-être ici se dire... C'est une avancée.
C'est tellement connoté, regrette pourtant un porte-parole du Bloc central. Un Premier ministre doit s'en tenir aux faits, aux solutions, pas aux sentiments, embraye-t-il, quand un autre redoute que ce clin d'œil appuyé à l'extrême droite ne redonne à la gauche socialiste, prête au compromis, des envies de censure dans les jours à venir.
Merci Rosalie Lafarge. Après la publication hier des mauvais chiffres du chômage en hausse de 3,9% du jamais vu en une décennie, voilà que l'INSEE devrait à son tour publier cette semaine les chiffres d'une croissance détériorée l'an dernier, sans compter que 2025 s'annonce a priori tout aussi morose, en particulier parce que l'incertitude politique qui agite le pays depuis la dissolution continue de peser sur la croissance et se double par ailleurs d'une crise budgétaire. Et c'est donc dans ce contexte particulier, celui de la maîtrise des dépenses publiques, qu'Emmanuel Macron a prévu de se rendre aujourd'hui au Louvre. Pourquoi? Parce que le musée le plus visité au monde et qui, avec sa célèbre pyramide, avait servi de décor à la victoire du président en 2017, est désormais confronté à une vétusté alarmante, en même temps qu'au casse-tête des milliers de touristes qui défilent quotidiennement devant le demi-sourire de la Joconde. Reste à savoir ce que le chef de l'État va bien pouvoir annoncer dès lors qu'il fait face aujourd'hui à deux écueils. Tout d'abord, et après la défaite de son camp législatif, il ne peut plus dicter ses décisions au gouvernement comme il l'a fait cette année durant. Et puis la situation très dégradée des finances publiques rend, on l'imagine, inimaginable des investissements massifs de l'État. Quoi qu'il en soit, pour parler donc de ces enjeux, de cette rénovation, invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, faut-il rappeler que ce grand projet de réaménagement est porté depuis déjà 2 ans en réalité par la présidente du Louvre, Laurence Descartes. Les travaux nécessaires sont estimés à 500 millions d'euros. Est-ce que cela vous paraît réalisable ?
C'est sans doute réalisable, mais ça me paraît peu raisonnable, à la fois sur le fond et d'un point de vue conjoncturel. D'un point de vue conjoncturel, on voit bien qu'on nous dit qu'on manque d'argent, et en particulier pour la culture. Et d'un point de vue structurel, je dirais qu'il y a d'autres pistes à explorer auparavant, puisqu'on voit bien que là, on vise la question de la gestion des flux, dont le moins qu'on puisse dire qu'elle n'est pas optimale au Louvre. Et donc, il conviendrait, à mon sens, de commencer par le commencement, c'est-à-dire à explorer l'ouverture des voies existantes. Il existe plusieurs entrées au Louvre qui ont été progressivement, au fil des années, un petit peu invisibilisées. Et donc, je pense que l'urgence, c'est d'abord de traiter la gestion des flux à l'intérieur du musée du Louvre avant d'envisager une ouverture du côté de la colonnade Perrault en face de Saint-Germain-l'Auxerrois.
S'agissant de gestion des flux, diriez-vous que le musée du Louvre est victime de son modèle fondé sur le tourisme de masse ?
D'une certaine façon, mais ce n'est pas quelque chose qui est subi, parce que le Louvre déploie de très grands efforts, y compris dans sa politique dite de marque et de promotion et de communication, pour attirer toujours un plus grand nombre de personnes. Donc d'une certaine manière, l'effet qu'il subit est en même temps un effet qu'il recherche, et nous sommes en train de comprendre au moment où nous parlons qu'accueillir un nombre très très important de visiteurs coûte aussi beaucoup d'argent, y compris sur le deuxième sujet, qui est celui de la maintenance, qui est celui de la préservation de l'intégrité physique du Louvre. Donc, ce modèle, il faut bien le qualifier de productiviste. C'est un modèle qui a été remis en cause pendant le Covid, y compris par la présidence à l'époque. Et c'est un modèle qui est de nouveau relancé encore plus avant par l'équipe de direction actuelle. Donc, c'est peu compréhensible de mon point de vue.
Est-ce que le musée du Louvre est un cas isolé ou bien au contraire le signe d'un problème plus général de politique culturelle à l'échelle nationale ?
Non, à l'échelle nationale, je pense que nous avons les moyens de préserver notre patrimoine, ce qui est difficilement compréhensible dans le cas du Louvre, c'est qu'on nous annonce une forme d'urgence dans la dégradation du bâtiment, alors même que le Louvre est sous surveillance de ses tutelles, de son conseil d'administration et d'une équipe de très haut niveau pour l'administration générale, et cela sous l'égide par ailleurs de conservateurs du patrimoine, dont on pourrait attendre bien évidemment qu'il se fixe pour priorité absolue la préservation de ce patrimoine.
Je l'évoquais d'un mot en introduction, le Louvre et Emmanuel Macron, c'est évidemment une histoire de symbole. Est-ce qu'après le succès de la rénovation de Notre-Dame de Paris, le Louvre pourrait devenir le nouveau chantier présidentiel en même temps que le lieu d'une reconquête politique ?
Sans doute, mais encore faudra-t-il expliquer aux Français comment on va pouvoir dégager des moyens extrêmement importants. Je rappelle que on parle beaucoup ces temps-ci des travaux sous la pyramide, mais des travaux ont déjà eu lieu il y a quelques années. Et ça fait une vingtaine d'années que le Louvre a près de 7, 8, 10 millions de visiteurs. Donc c'est quelque chose qui ne peut pas être traité dans l'urgence, parce que c'est un phénomène que nous connaissons bien et depuis longtemps. Maintenant, effectivement, le Louvre est un phare mondial et le président de la République pourrait tout à fait se saisir de ce sujet. Est-ce que l'opinion publique suivra ? Ça, c'est une autre question.
Et l'on terminera par ces mots. Merci Jean-Michel Tobelem, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aline Biette pour la préparation.
Et à présent, direction l'Opéra.
Oui, depuis une semaine, syndicats du secteur et artistes s'émeuvent du sort des chanteurs du chœur de l'Opéra de Toulon, lesquels ont appris, c'était la semaine dernière, leur licenciement pour des raisons économiques. Les 20 chanteurs lyriques encadrés par un chef de chœur et une régisseuse perdront leur emploi d'ici le mois de juin, autrement dit à la fin de la saison culturelle. Et comme on l'imagine, Héloïse Weiss, les salariés fustigent une annonce particulièrement brutale.
Au rang des basses depuis plus de 30 ans à l'Opéra de Toulon,
Richard Garnier, élu CGT et représentant du personnel, est le premier à avoir appris son licenciement et celui des autres chanteurs. C'était lors du dernier conseil d'administration de l'Opéra par la voix de son directeur.
On vous dit, l'exercice comptable de 2024 présente un déficit de 100 000 euros. Ça ne peut pas durer, merci, au revoir. D'une brutalité, mais surtout en plus, entre 2023 et 2025, toutes les maisons d'opéra en France, qu'elles soient petites ou plus grosses, quoi, avaient recruté pour les départs dans leur chœur, etc. Quoi. En fait, on ne comprend pas.
Depuis quelques mois, l'inquiétude s'installait au sein du chœur, à cause par exemple de recrutements qui n'avaient finalement pas eu lieu, ou encore d'un spectacle programmé sans la participation des artistes lyriques. Aujourd'hui, ils craignent donc de voir l'Opéra de Toulon devenir un théâtre d'accueil pour d'autres formations ou intermittents. Un déchirement pour Céline Lebotte, soprano depuis 21 ans.
Un chœur permanent, c'est perpétuer un espèce de patrimoine immatériel qu'on se transmet d'une génération à l'autre, entre des jeunes gens qui arrivent et puis des personnes qui sont là et qui transmettent leur savoir-faire, qui ont côtoyé des grands artistes ou des grands chefs d'orchestre. C'est une transmission qui ne peut se faire que dans un chœur qui reste dans une maison.
Cette décision de licencier une troupe n'est pas la première du genre à l'Opéra de Toulon. En 2014, c'était le ballet de l'institution qui était supprimé, se souvient encore la soprano.
Ouais, je précise que contacter la direction de l'Opéra n'a pas souhaité répondre à nos sollicitations, pas plus d'ailleurs que les autres membres du conseil d'administration.
Midi 41 sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Des dizaines de migrants sont arrivés tôt ce matin en Albanie, marquant ainsi la reprise des transferts par l'Italie des demandeurs d'asile vers des centres controversés dans le cadre d'un accord bilatéral lui-même contesté. Une manière de rappeler combien le gouvernement d'extrême droite de la péninsule a fait de la lutte contre l'immigration clandestine la pierre angulaire de sa politique. Et de fait, l'an dernier, la stratégie de Giorgia Meloni a fait chuter l'immigration irrégulière de 60%. Bruno Duvic, bonjour.
Bonjour.
Correspondant de France Culture à Rome. Le fait que les arrivées d'exilés aient diminué de 2/3 sur les côtes italiennes l'an dernier tend à démontrer que Rome a réussi à rectifier le tir après avoir connu d'abord des ratés en matière de flux migratoires, sauf que la tendance est déjà en train de s'inverser en ce début d'année. Le nombre d'arrivées à Lampedusa depuis le 1er janvier a plus que doublé en un an, 3000 arrivées contre 1300. Comment cela s'explique-t-il, Bruno ?
Alors un détail est marquant, selon les témoignages recueillis à Lampedusa, plus des 2/3 de ces personnes originaires du Bangladesh, du Pakistan et d'Égypte pour les premières nationalités, plus des 2/3 ont embarqué en Libye. Or, Rome et Tripoli ont un accord, l'Italie fournit matériel et assistance pour que les gardes-côtes libyens empêchent les départs depuis l'Afrique du Nord. L'effet avait été très net l'an dernier. Cette recrudescence d'arrivées est à mettre en lien avec l'arrestation il y a une dizaine de jours à Turin d'un général libyen recherché par la Cour pénale internationale. L'homme a été vite libéré, l'Italie a prétexté un vice de forme pour le laisser repartir, mais un premier pic d'arrivée à Lampedusa a eu lieu au moment de ce coup de froid diplomatique. L'interprétation ici est que la Libye rappelle le pouvoir qu'elle a dans ce dossier. Parallèlement, vous le disiez, le gouvernement a dérouté une petite partie de ses migrants vers l'Albanie, où il a installé des centres pour externaliser le traitement des dossiers. On parle de 49 personnes sur 3000. Et jusque-là, au nom du respect du droit européen, la justice à Rome a toujours ordonné que ces migrants soient finalement envoyés en Italie. Sur les 49, les magistrats doivent se prononcer d'ici à jeudi. Du point de vue du gouvernement italien, la baisse des arrivées l'an dernier a été vue comme un grand succès. Giorgia Meloni mesure à quel point elle dépend de la bonne volonté des Libyens.
Merci Bruno Duvic en direct de Rome. Après des mois de combats toujours plus intenses, le coup près est tombé hier pour Goma. Au terme d'une progression éclair, les combattants rebelles du M23 soutenus par des troupes rwandaises sont entrés dans la capitale de la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Un scénario meurtrier, 17 morts et près de 370 blessés rendus possible par l'inattention de la communauté internationale. La résurgence il y a déjà 3 ans de cette crise entre Kinshasa et Kigali sur fond de violence ethnique n'est jamais apparu comme une priorité dans les agendas diplomatiques. Il aura donc fallu attendre la prise de Goma hier pour que l'ONU et l'Union africaine se mobilisent. Les conseils de sécurité de l'une et l'autre doivent se réunir dans la journée. En attendant, plusieurs ambassades, dont celle du Rwanda, ont été attaquées ce matin par des manifestants à Kinshasa.
Les images sont presque irréelles.
Un flot ininterrompu d'hommes, de femmes et d'enfants chargés de bagages ou poussant des chariots. Une véritable marée humaine depuis hier. Ce sont des centaines de milliers de Palestiniens au visage émaciés par 15 mois de guerre et de privation totale qui marchent au milieu des ruines vers le nord de la bande de Gaza à la faveur du fragile cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas. Au Liban, là-bas aussi, la population est déterminée à rentrer chez elle. Les vidéos montrant des convois entiers d'habitants en route vers leurs villages respectifs ont, là encore, rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Des processions endeuillées toutefois par des tirs israéliens depuis dimanche. 25 personnes au total ont perdu la vie, 134 autres ont été blessées.
C'était il y a une semaine, la Turquie découvrait effarée l'ampleur de l'incendie qui a ravagé un hôtel huppé d'une station de ski dans le centre du pays.
Oui, bilan 78 morts, dont 36 enfants, des familles entières décimées, des témoignages qui se multiplient sur l'absence de tout dispositif de sécurité incendie. D'où cette question, les inspections ont-elles été respectueuses des normes sur ce point? Le gouvernement local, tenu par l'opposition et le ministère du Tourisme, se renvoie la balle, mais c'est une fois de plus le laxisme et la corruption qui se font jour. C'est une correspondance signée Marie-Pierre Véraud.
C'est un coup de colère du directeur de l'association turque des agences de voyage dans la presse d'opposition. Mehmet Gem évoque des centaines d'hôtels de tourisme de toutes catégories opérant sans aucune autorisation valable, mais sur lesquels les autorités ferment les yeux. Il y en a dans les stations de ski comme sur la côte, explique-t-il à Gazeté d'Ouvar. Les issues de secours, les installations électriques, rien n'est aux normes, il suffit d'un simple examen pour s'en rendre compte. Mais Mehmet Gem, comme d'autres, met en cause le système d'inspection. Le ministère du Tourisme l'a confié à des sociétés privées, une manne de près de 2 milliards de livres turcs, explique le spécialiste du tourisme, et aucun contrôle n'est exercé sur leurs activités. L'enquête se poursuit, près d'une vingtaine de personnes ont été arrêtées, dont le maire adjoint qui n'avait pas autorité sur la zone, le chef des pompiers qui avait pointé les manquements, le chef cuisinier ou encore le propriétaire et le directeur de l'hôtel, mais aucun responsable du ministère du Tourisme, qui était pourtant en première ligne sur les réservations et les autorisations délivrées à l'hôtel, aucun n'a été inquiété ou n'a dû démissionner. Chaque jour dans la presse, la colère s'exprime devant le peu de cas qui est fait de la vie humaine. Tout comme lors des séismes meurtriers de 2023, la justice turque peine à faire son travail.
Semblant sortir de nulle part, la start-up chinoise DeepSeek aura réussi l'exploit en quelques jours de susciter à la fois de l'admiration, des accusations de tricherie, des dégringolades en cascade à Wall Street, mais pas seulement, puisque le week-end dernier, son puissant robot conversationnel est devenu l'application gratuite la plus téléchargée sur l'App Store américain d'Apple, supplantant ainsi son rival ChatGPT, le premier à avoir lancé la course à l'IA générative fin 2022. Sébastien Berriot, bonjour.
Oui, bonjour.
Correspondant de France Culture à Pékin, tout le monde s'interroge à présent. Comment la Chine a-t-elle fait pour rattraper ses concurrents américains aussi vite et surtout avec aussi peu de moyens? Que sait-on exactement, Sébastien, de DeepSeek et de sa mise au point fulgurante?
Alors, il y a d'abord le récit qui est fait dans la presse chinoise sur l'incroyable succès de DeepSeek, créé il y a 2 ans à peine à Hangzhou, l'un des hauts lieux de la high-tech en Chine. Le fondateur Liang Wenfeng réunit à l'époque autour de lui de jeunes talents, des ingénieurs très ambitieux, issus des meilleures universités chinoises. Une petite équipe qui réussit avec seulement quelques milliers de puces au départ à créer l'un des systèmes d'intelligence artificielle les plus performants au monde, avec un investissement minime, moins de 6 millions de dollars, une goutte comparé aux milliards de dollars dépensés aux États-Unis. On peut évidemment s'interroger sur ces chiffres que personne ne peut vérifier, mais le résultat est là. Et ce qui étonne en particulier, c'est que les Chinois ont pu mettre au point leur modèle d'intelligence artificielle malgré les restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine. C'est d'abord une preuve que les Chinois disposent quand même de compétences très avancées. L'équipe de DeepSeek a su développer de nouvelles technologies pour économiser de la mémoire et faire face à l'embargo américain. Ce succès peut aussi s'expliquer par ce qu'on appelle la stratégie du suiveur. Les produits d'intelligence artificielle peuvent être répliqués de manière plus ou moins facile. Celui qui innove en premier payent le prix fort et souvent, ceux qui arrivent derrière, comme DeepSeek, bénéficient des recherches initiales, ce qui facilite leur travail. Ça peut donc expliquer la réussite très rapide des Chinois sans trop dépenser.
Merci Sébastien Berriot à Pékin. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, le plus souvent maussade, avec des averses sur l'ensemble du territoire. L'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique et le Morbihan sont toujours placés en vigilance rouge pour crue. Quant aux températures, elles seront comprises entre 7 et 14 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Nicolas Paumet et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.